Dans ce nouvel épisode des Aventuriers Engagés, nous partons à la rencontre de Little Gypsy, une grande voyageuse engagée depuis 9 ans sur la route. Dans cet épisode, elle vous explique son parcours, sa vision du voyage et surtout son engagement autour de The Orca. Bonne écoute!
Je m'appelle Morgane et ça fait 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux sous le nom de Little Gypsy. Et je suis sur la route depuis 9 ans. J'ai mis un sac sur mon dos, je ne l'ai jamais enlevé. Jusque là, maintenant, ça fait 4 mois que je suis posée, mais jusque quand, je ne sais pas. Mais voilà, je fais des vidéos de voyage. Enfin, je faisais beaucoup de vidéos de voyage, et maintenant, je fais des vidéos beaucoup plus engagées. L'envie de voyager, je l'ai depuis que je suis toute petite. Ça a commencé grâce aux orques. Parce que depuis que j'ai 4 ans à peu près, je suis très passionnée des orques. J'avais envie d'aller de partout dans le monde, les voir de partout. Parce que les cadeaux de Noël que j'avais quand j'étais petite, c'était toujours les mêmes. C'était des livres sur les orques ou des cassettes documentaires sur les orques ou sur les mammifères marins. Tu les voyais soit en Norvège, tu les voyais soit en Argentine ou alors au Canada, en Colombie-Britannique. Et je me disais que j'avais vraiment envie d'aller un peu de partout dans le monde pour aller les observer. Et du coup, c'est comme ça que depuis toute petite, déjà, j'avais ce goût, j'avais très, très envie de voyager. J'ai fait mon premier voyage avec mon papa au Canada, au Québec. Et c'était vraiment, c'était ma révélation. On est allé en plus à Tadoussac où tu vois les baleines à bosse, tu vois les belugas, et pour moi c'était fou, c'était pas les orques mais les mammifères marins en général, c'était une grande grande passion pour moi. Quand on est rentré du Québec de ce voyage là, je le savais au fond de moi que vraiment ça allait y allait avoir une grande partie de ma vie qui allait être consacrée à être sur la route et à découvrir le monde. Et ça me faisait tellement peur de me dire que j'allais vraiment devenir addict quand j'allais commencer, que je m'étais dit, ok, bon, je vais passer plein de diplômes, je vais faire, d'abord, je vais réaliser tous mes rêves professionnels, et quand j'aurai tout fait, bam, je commencerai à voyager. Et c'est ce que j'ai fait du coup. On va dire que mon engagement écologique, il a, vraiment sur le mot écologique, il a commencé à partir du moment où j'ai voulu protéger ces orques. En gros, les orques que j'ai toujours rêvé de voir et que je voyais toujours dans les documentaires et que je voyais toujours dans mes livres, il y avait vraiment un endroit précis où vraiment ça m'appelait. Je me disais, mon Dieu, mais c'est là où je veux aller. C'était en Colombie-Britannique. Je connaissais rien des orques résidentes du Sud. Je connaissais absolument rien, mais je savais que ces orques-là, je voulais les voir au bord de la plage. Et quand je suis arrivée et que j'ai trouvé l'endroit, je suis restée 6 mois sur place pour connaître exactement les endroits où je pouvais voir ces orques depuis cette plage, comme sur mes livres et comme sur mes documentaires. Et au fur et à mesure, il y avait plein de biologistes qui sont sur cette plage-là et qui observent ces orques-là. Et Nana, qui est là tous les jours, du matin jusqu'au soir, pendant 2 mois assise, forcément, ça attise la curiosité. Donc, je suis devenue copine avec pas mal de biologistes qui sont là-bas. Et c'est eux qui m'ont appris l'extinction de ces orques-là. Et pour moi, c'était une sorte de révélation, parce que ces orques, c'est ma raison de vivre depuis que je suis toute petite. Et d'apprendre qu'elles étaient en train de mourir et que c'était de la faute des humains, c'est pour moi, il fallait que je fasse quelque chose. Je pouvais pas rester sans rien faire. Et de commencer à m'être engagée en faisant le mouvement We Are The Orca, ça a été le premier pas. Je pense qu'on a tous, quand on commence à s'engager dans l'écologie ou s'engager tout court, il y a toujours le premier pas qui va engendrer le deuxième, le troisième. Puis en fait, tu évolues de plus en plus sur plein d'autres causes et plein d'autres thématiques sans t'en rendre compte. Moi, de base, je voulais sauver des orques et aujourd'hui, je suis engagée sur plein d'autres choses et je suis éveillée sur plein d'autres thématiques que la protection de ces orques-là. Mais ouais, ça a commencé comme ça. Et puis petit à petit, d'avoir un très, très gros éveil sur tout le reste et ce qu'on peut dire de l'écologie aujourd'hui. Mais ce côté militant, je l'ai depuis que je suis toute petite, sur la protection animale en général. Genre, je vais te donner un exemple de quand j'avais déjà genre 6-7 ans, j'aimais beaucoup les chevaux et je trouvais ça très injuste qu'on mange des chevaux. Et je m'étais abonnée, t'avais Cheval Magazine. À l'époque, quand on était jeunes, on achetait tous les Cheval Magazine. Et tu pouvais commander des stickers avec pour une association, je sais plus comment elle s'appelle, elle existe toujours, ça m'a fait rire, j'ai revu ce stickers il y a genre quelques mois. Il y avait écrit en gros, non, un cheval, ça ne se mange pas, avec le dessin d'un cheval. Et quand j'étais petite, quand on allait faire les courses, je collais des stickers partout dans le rayon viande, sur le rayon cheval, ou alors je prenais la viande et je la cachais derrière les paquets de chips, comme ça, ça devenait avarié, du coup les gens ils pouvaient pas manger les chevaux. Enfin, Et ensuite, j'ai travaillé avec les animaux, j'ai travaillé aussi dans du sauvetage. J'ai travaillé dans un refuge pour chiens et chats. Donc, on faisait du sauvetage sur des animaux maltraités. J'ai été soigneuse à Marineland de dauphins et d'otaries. Alors, c'est pas forcément, à l'heure d'aujourd'hui, on peut pas appeler ça de la protection animale, mais c'était, enfin, mon engagement, ma motivation d'aller travailler dans ce delphinarium, c'était de prendre soin des animaux, tu vois. Et ouais, du coup, vraiment, c'est un très fort côté militant sur la protection des animaux de base. Et ensuite, tu te rends compte, je me suis rendu compte en faisant We Are the Orca, que pour protéger ces animaux, il fallait aussi se battre pour plein d'autres choses. Et que pour pouvoir les protéger, bah, des fois, il ne faut pas être à côté d'eux. Il faut être à des pays à côté ou des kilomètres et des kilomètres à côté pour aller éteindre la source du feu. Tu vois, la problématique des orques, ça peut aller sur plein de choses. C'est les animaux les plus contaminés des océans. Comme ils sont tout en haut de la chaîne alimentaire, bah, c'est eux qui récupèrent tout, toute la poubelle qu'il peut y avoir dans les océans. Et au niveau des problèmes chimiques qu'on peut avoir dans leur corps, en Colombie-Britannique, ils se sont rendus compte qu'il y a une grande partie à cause du textile qui est fabriqué en Chine. Et les usines qui fabriquent la fast fashion qu'on connaît tous, les nuages chimiques qui montent dans les airs créent les nuages qui vont en Colombie-Britannique. Et en Colombie-Britannique, il pleut énormément. Et du coup, cette pluie contamine énormément les océans de Colombie-Britannique. Donc, ça, tu vois, t'as une cause qui est en Chine et donc de lutter contre la fast fashion qui pollue ces océans-là et ces orques-là. T'as des barrages qui sont dans l'état de Washington qui empêchent la remontée des saumons. Donc, d'un coup, tu te mets à te battre contre des barrages pour sauver des poissons. Moi, jamais de ma vie, j'aurais imaginé me battre pour sauver des poissons parce que je voulais sauver des mammifères marins à des kilomètres et des kilomètres au-dessus de l'état de Washington. Pour résumer, une grosse synthèse de We Are the Orca, donc c'est cette communauté d'orques qui est en voie d'extinction. La principale cause, c'est qu'elles ont un gros manque de nourriture. En fait, t'as deux types d'orques. T'as des orques résidentes et des orques nomades. Les nomades, ça va être celles que tu vas voir dans les documentaires qui sont extrêmement impressionnantes, que tu vois jeter des otaries en l'air ou manger des baleines. Ça, c'est les nomades. Elles défoncent tout sur leur passage. Et les résidentes, ça va être des orques qui vont plus se nourrir de poissons. Les orques résidentes du sud, elles se nourrissent à 90% de poissons, dont le saumon chinook qui est leur nourriture principale. Et le saumon chinook va remonter la Columbian River, qui est dans l'état de Washington. La Columbian River, c'est là où tu as le plus gros run de chinook sur la côte ouest. Et sur leur trajet, il y a quatre barrages qui font qu'il y en a, les trois quarts qui n'arrivent pas à remonter, en fait. Ou ceux qui arrivent à remonter, les autres n'arrivent pas à redescendre pour retourner dans les océans. Et ça tue 8 millions de saumons par an. Il y a du lobbying, il y a des manifestations, il y a aussi faire participer les gens sur les réseaux sociaux. On va leur demander d'envoyer des lettres au gouverneur de Washington, de taguer telle personne qui est responsable du fait qu'elle ne veut pas que ces barrages soient détruits. T'as aussi des votes publics mais comme c'est très bien caché, les gens sont pas forcément au courant qu'ils peuvent voter à certains moments pour demander à ce que ces barrages soient détruits. Donc c'est aussi éveiller les consciences, dire aux Américains qui vivent dans l'état de Washington, là maintenant vous pouvez voter pour demander à ce que ces barrages soient détruits. Et c'est éduquer énormément. J'ai créé une marche avec une amie qui a réalisé Co-Extinction, le documentaire Co-Extinction. On a créé une marche où notre but, c'était de commencer sur les deux sièges qui tiennent ces barrages-là et de marcher jusqu'au premier barrage. Et on avait 24 jours de marche. Et le but, c'était de manifester avec plein d'autres personnes, avec des pancartes et d'être sur l'autoroute et d'attirer l'attention des médias parce que ces gens-là détiennent énormément de médias. Donc, personne n'est au courant, même les habitants de l'État de Washington, de cette situation. Et en fait, tu te rends compte que quand tu marches, au plus tu avances et au plus tu rentres dans les terres, et au plus, même dans l'État de Washington, ils sont même pas au courant qu'ils ont des orques dans leurs océans à 3 heures de chez eux, ou si ça soit sur une plage, ils ont des orques incroyables qui passent à côté d'eux. Donc, tu vois, l'éducation, elle commence ne serait-ce que là. Éveiller aussi les gens qui vivent là-bas et qui se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer chez eux parce qu'on leur cache très, très bien. On avait vu une vidéo qui était, enfin vraiment, t'avais l'impression d'être dans Black Mirror, quoi, où le lobbying, il est tellement puissant sur ces barrages que on voyait des enfants à l'école qui apprenaient une chanson sur ces barrages, à quel point ils étaient merveilleux. Donc il y a un gros travail aussi d'éducation, parce que si les gens ils sont pas éduqués, et derrière tu vas leur dire ben allez voter pour détruire ces quatre barrages, ils vont te dire mais enfin ces quatre barrages, c'est grâce à ça que je peux allumer mon chauffage le soir. Enfin non, je vais pas aller voter pour qu'ils soient détruits. Donc ouais, c'est il y a beaucoup beaucoup de boulot. T'as aussi les Fish Farms. Alors ça, t'as des Premières Nations qui se sont énormément battues, avec une biologiste aussi qui s'appelle Alexandra Morton, qui a décidé de dédier sa vie depuis, ça fait 40 ans qu'elle dédie sa vie contre ces Fish Farms. Et là, ils sont en train de gagner. Là, c'est depuis plusieurs mois, ces Fish Farms sont en train d'être enlevés. Et on est entre guillemets aussi un peu responsable de ça, parce que c'est des sociétés norvégiennes qui viennent s'implanter en Colombie-Britannique pour élever leur saumon, que nous, on mange dans nos assiettes en pensant que c'est du saumon norvégien. Mais ça détruit tellement les océans et ça contamine tellement tout un écosystème, dont les gens qui se nourrissent des saumons. Donc tu as aussi des fortes communautés de Samis, tu as quand même pas mal de gens qui survivent grâce au saumon aussi en Norvège. Donc, et du hareng, donc ça contamine aussi le hareng. Donc ils ont essayé d'aller s'implanter chez d'autres, dans notre pays, pour aller contaminer autre part que chez eux. Et donc là, ils sont en train de réussir à enlever ces fish farms-là. Mais la problématique qu'il y a avec les fish farms, c'est que les saumons d'élevage sont contaminés de plein de maladies possibles et imaginables. Et ils le transmettent au saumon sauvage. Et en fait, le saumon sauvage, t'as tout un écosystème. C'est toute la côte ouest des États-Unis et du Canada. Toute la wildlife qu'il y a là-bas, il y a un pilier, c'est le saumon. C'est vraiment grâce au saumon que tout cet écosystème survit. Et donc, si t'as des saumons sauvages contaminés, ben, tu contamines tout le reste aussi. Et l'autre problématique, c'est aussi Colombie-Britannique, t'as énormément de cargos dans l'eau, parce que c'est une grosse plaque tournante. T'as la Chine et le Japon qui est pas très loin. Donc tout ce qui est Amazon aussi, ou tout ce qui est pétrole, Vancouver, c'est une très très grosse plaque tournante de cargo. Quand tu arrives à Vancouver, ça peut être choquant, hein, si tu es éveillé, on a commencé à t'en parler. Quand tu arrives, il y a des cargos partout dans l'eau dans Vancouver. Enfin, il n'y a pas, après, quand tu es éveillé, quand tu t'assois sur une plage, tu prends moins plaisir à regarder le paysage, parce que tu vois des cargos de partout et ça arrache le cœur. Et en gros, ils sont en train de construire une pipeline qui va transporter du pétrole et qui va arriver jusque la fin de cette pipeline arrive à Vancouver, ce qui va engendrer 7 fois plus de cargo dans l'eau et ce qui va faire que ben ça va plus être vivable pour les mammifères marins qui vivent sous l'eau. C'est comme si tu avais une discothèque géante, mais avec des bruits que t'as pas envie d'entendre. Tu vois vraiment des bruits très très des décibels très désagréables pour toi, limite invivables. Et tu les as non-stop et que tu peux jamais baisser la musique. Bah c'est ce qui va arriver. Tu auras aussi énormément de taux élevés de un jour un cargo qui va exploser ou qui va couler. Ben tu auras du pétrole dans l'eau. Et là où il y a aussi de l'injustice sociale, il y en a surtout. Hein, tu vois les barrages, ils ont été construits illégalement sur des terres Premières Nations. Ils ont mis à la rue les Premières Nations qui vivaient sur ces terres-là pour construire ces barrages-là. C'est des gens qui en souffrent encore énormément à l'heure d'aujourd'hui, qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus de chez eux. Les fish farms ont été implantés illégalement sur des terres Premières Nations, où ces Premières Nations, eux, survivent grâce au saumon. Nous, c'est juste un petit plaisir de Noël ou une fois toutes les 2 semaines. Eux, c'est vraiment. Ils pêchent l'été, ils mettent tout en bocaux et l'hiver, c'est grâce à ça qu'ils survivent. Eh ben, on leur fout du saumon contaminé et en plus on met des fish farms illégalement sur leur terre sans leur demander leur autorisation. Et la fin de la pipeline est en train, enfin tout le trajet de la pipeline est sur des terres Premières Nations non cédées. Quand les Premières Nations veulent manifester, on les tabasse tout simplement. Enfin, c'est assez horrible quand tu commences à rentrer là-dedans et à voir tout ce qui se passe, c'est très très triste. Et là où elle s'arrête, cette pipeline-là, c'est sur une terre aussi Première Nation qui est à Vancouver, où ces gens-là, c'est une sorte de petite baie très calme où ces gens vivent grâce aussi à cette baie, donc en pêchant, en apprenant à leurs enfants à faire du canoë. Enfin, c'est censé être une terre de paix. Maintenant, il y aura plein de cargos. Si la sortie de la pipeline explose, ça sera chez eux. Donc voilà, le combat We Are the Orca. Si on reste dans l'humain égoïste, en mode j'ai pas envie d'arrêter de manger de la viande ou j'ai pas envie d'arrêter de manger du poisson, ne serait-ce que si t'as pas envie de le faire pour les mammifères marins, ce qu'on peut dire aux gens, c'est déjà premièrement, tu te contamines, mais tu te rends même plus compte à quel point les océans, ils sont pollués à l'heure d'aujourd'hui. Et ce que tu manges, ben, tu te mets du mercure dans le corps, enfin, tu te mets un tas de merde dans le corps à manger du poisson. Et la deuxième chose, c'est que faut aussi se rendre compte qu'une respiration sur deux qu'on prend, c'est grâce à l'océan, et qu'on est en train de tuer les océans avec la surpêche, même chez nous. Hein. On est un des premiers pays au monde à tuer le plus de dauphins, tu vois, la France. En plus, chez nous, dans le golfe de Gascogne, ouais, avec la pêche industrielle, la surpêche qu'on a sur la côte ouest, il y a énormément de dauphins qui sont pris dans les filets. Alors, je suis bénévole avec Sea Shepherd. Moi, j'ai jamais fait encore de mission Dolphin Bycatch. Mais quand j'entends les bénévoles parler de ce qu'ils voient en mer, les longueurs de kilomètres et de kilomètres de filets qu'il y a dans l'eau pour remonter des tonnes de poissons, enfin, faut ouvrir les yeux et se dire, mais en fait, c'est notre petite consommation de temps en temps pour se faire plaisir. On est 8 milliards maintenant sur Terre. Ouais, c'est énorme. Donc, t'imagines, notre petit plaisir fois 8 milliards, ben en fait, on est en train de vider les océans. Mais je pense que tout commence par l'éducation. À partir du moment où t'as réussi à faire aimer quelque chose à quelqu'un, t'as déjà fait une grosse partie du travail. Le premier pas, c'est d'aimer. Si t'aimes la nature, si t'aimes aller dans l'océan, bah derrière, t'auras envie de le protéger, tu vois. On se rend plus compte, mais on vit vraiment dans un monde merveilleux aussi, quoi. Il faut se re-émerveiller de tout ce qu'on a autour de nous, parce qu'on vit dans un monde un peu comme dans les films au final, tu vois, mais on s'en rend plus compte. Comment est-ce que je mène le voyage, l'exploration avec mon éveil écologique que j'ai depuis plusieurs années déjà? Avant, quand j'ai commencé il y a 9 ans en arrière, clairement les aéroports, c'était ma deuxième maison, voire ma première. Je dormais littéralement dans les aéroports, c'était pas un souci. Et je prenais vraiment beaucoup l'avion. Vraiment, il y a des mois où si je prenais l'avion 5 fois par mois, c'était pas déconnant, quoi. C'était ma vie et on n'était pas du tout éduqués sur ça. Et au contraire, enfin, si tu mettais une photo de toi sur les réseaux sociaux dans un aéroport, t'étais stylé, tu vois. Forcément, bah, quand tu commences à faire des choses engagées, tu vas rencontrer aussi des gens qui sont engagés. J'ai rencontré des gens qui étaient très engagée dans l'écologie et avec qui j'avais besoin de discuter parce que j'avais vraiment très soif d'apprendre et de comprendre comment ça se passait, comment on se faisait avoir, qu'est-ce que c'était que le lobbying, qu'est-ce que c'était que pourquoi on en était arrivé là. En gros, j'ai fait un très gros burn-out après We Are The Orca. Pendant 6 mois, je suis restée enfermée chez moi et vraiment, tu sais, la grosse prise de conscience où je me suis dit, bah, en fait, c'est fini, quoi. J'avais vraiment cette impression-là et c'était un gros coup de massue pour moi, c'est d'ouvrir les yeux autant à ce point-là. Faut se mettre à l'idée que moi, être nomade, c'est moi, en fait. C'est ma manière d'être. Tu peux pas me demander d'être posée quelque part, j'en serais incapable. Enfin, je préfère me foutre en l'air à ce moment-là, tu vois. Sinon, c'est comme si t'enfermais un lion dans une cage. Enfin, je suis pas quelqu'un qui est faite pour avoir une routine et pour vivre dans le même endroit tout le temps. Enfin, c'est en moi. Et je vibre pour ça aussi, tu vois, d'être en mouvement tout le temps, constamment. Tu sais, quand on me dit que je suis une voyageuse, à chaque fois, je vois les gens, quand ils me le disent, que leur vision, c'est je vais dans les hôtels, je fais mes petites photos instagrammeuses, machin. Moi, c'est ma manière de vivre. Ouais, je pense que toutes les gens, les explorateurs, tous les gens que vous interviewez, ils vont te parler pareil, de ce truc ce besoin d'être en mouvement. Moi, j'appelle ça un peu comme les orques, tu vois. T'as les orques nomades et t'as les orques résidentes. Ben, moi, je suis une nomade. Je peux pas rester au même endroit tout le temps. Mais du coup, je me disais, ben merde, j'ai pas envie de détruire la planète non plus, tu vois. Et je m'étais dit à un moment donné, en essayant du coup de trouver mon juste milieu et comment je me réinventais en continuant de vivre comme j'ai besoin de vivre, je me disais, ben j'arrête l'avion. J'arrêterai complètement l'avion. Et à un moment donné, c'était vraiment ce que je disais à mes proches. Je disais, je prendrai plus jamais l'avion et je vais trouver plein d'autres manières de voyager. Donc ça m'a ouvert aussi à voir comment je pouvais me déplacer, voyager. Et cette idée de me dire que, par exemple, je pourrais plus jamais retourner en Colombie-Britannique ou alors il fallait que je prenne un cargo. Mais le cargo, c'est tout aussi polluant que de prendre un avion. J'ai pas envie d'être extrémiste non plus et j'ai pas envie de ressembler à Madame Parfaite non plus. Déjà, si sur mes réseaux ou moi, en règle générale, si je deviens Madame Parfaite, ben je vais m'adresser qu'à Monsieur Parfait et Madame Parfaite de l'écologie aussi. Et en fait, on va juste discuter entre gens parfaits de l'écologie vie. Mais moi, j'avais pas envie de ressembler à ça parce que j'avais envie de montrer aussi que bah, j'ai des défauts. Je suis pas parfaite, mais je fais vraiment de mon mieux, sincèrement. Et je vous invite à faire la même chose de votre côté. Et moi, bah voilà, mon talon d'Achille, c'est ça, c'est l'avion. Mais je fais énormément d'efforts. En 4 ans, j'ai pris 4 fois l'avion, ce qui est censé être mon métier de base quand même. Enfin, je suis censée être youtubeuse voyage, donc c'est quand même censé être mon métier. Donc je pense faire des énormes efforts. J'ai fait un tournage en Suède, j'ai demandé à l'office du tourisme de me prendre que des trains. Donc je suis partie faire un tournage en Norvège, j'ai fait 20 heures de train, c'était pas un souci pour moi. Quand je vais voir ma famille à Nice, je fais 15 heures de train parce que c'est Biarritz, Paris, Paris, Nice. Je peux vous dire que c'est très long de pas prendre un avion pour pouvoir le faire. C'est vraiment énormément de choses que je fais maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Mais si je dois aller faire un tournage en Colombie-Britannique pendant un mois, je vais pas m'en empêcher et je vais pas avoir la boule au ventre de me dire je suis la pire personne au monde parce que j'ai pris un avion. Maintenant, je vais pas partir en vacances pendant une semaine en Thaïlande. Il y a 4 ans en arrière, je te l'aurais fait, mais alors les yeux fermés, hein, vraiment avec grand plaisir, j'y allais. Aujourd'hui, je vais plus le faire. Enfin, il y a une raison pour laquelle je vais partir en avion et j'essaie de rester le plus longtemps possible et voilà, j'essaie de faire du mieux que je peux, mais j'ai pas envie de, et je le dis sincèrement, je suis pas parfaite et je fais des erreurs et oui, voilà, il y a des moments où je prends l'avion encore. Je pense qu'il faut vraiment il faut tout le monde dans ce combat-là. Et je trouve que malheureusement, dans ce combat, on passe plus de temps à se taper les uns sur les autres, alors que si on cherche bien et qu'on regarde bien les uns et les autres, on veut tous le même résultat. Mais on veut tous se taper et se montrer du doigt. Et en attendant, il y a des gens bien plus puissants et qui détruisent bien plus fort la planète, qui nous regardent et qui rigolent bien et qui nous la mettent bien à l'envers parce qu'on passe notre temps à se taper dessus au lieu d'aller de tous s'aligner ensemble et de dire alors moi, je suis désolée, j'ai ce défaut-là. Toi, t'as ce défaut-là. Bah oui, bah c'est pas grave. Mais viens, on y va, on va ensemble et on va combattre un truc bien plus haut que nous, tu vois. J'ai fait beaucoup d'aventures. J'ai traversé un désert avec une charrette de 150 kilos, j'ai fait des 3000 mètres, j'ai fait des choses vraiment bien badass. mais je pense que la plus grosse aventure, c'est celle que j'ai fait avec We Are The Orca et que je continue d'avoir commencé à protéger le vivant. C'est la plus belle aventure que j'ai pu avoir. Puis je trouve que c'est un peu genre ça... Je sais plus comment il s'appelle ce film où... c'est un mec qui joue qui veut gagner des millions et chaque question.
Slumdog Millionnaire.
Ouais. Et en fait chaque question va l'aider à répondre à une question et qu'en fait tout ce qu'il a vécu dans sa vie, ça l'a aidé à ce moment bien précis là de sa vie. Et j'ai l'impression que pour We Are The Orca, c'est exactement ça. Avant j'étais une ancienne soigneuse de mammifères marins dans un parc marin. J'ai été dans la protection animale ensuite. Après j'ai créé une communauté. C'est le truc le plus improbable de ma vie. Et quand j'ai commencé à voyager, à faire des vidéos drôles sur mes voyages, je savais même pas que c'était possible d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Je pensais que... Genre, moi, je voulais vraiment juste faire rire les gens. Et je me disais, au pire, peut-être qu'un jour, j'aurai une émission de télé. Mais les réseaux sociaux, c'était même pas d'actualité à cette époque-là. Et j'ai été sur la route toute seule. J'ai appris à voyager toute seule, ce qui m'a permis d'aller à cet endroit... et d'aller vers les gens, d'être aiguillée sur cette plage, d'y rester toute seule, je dormais dans ma voiture tous les jours. Et ça a vraiment fait, tu sais, genre, ça a créé ça, quoi. Ça a créé un mouvement. Et je trouve que c'est une belle aventure parce que ça regroupe tout. Tout ce que j'ai vécu depuis, parce que ça a commencé quand j'avais 28 ans. Donc tout ce que j'ai vécu depuis 28 ans, j'ai l'impression que des fois, c'était pour ce moment-là. Et puis c'est trop beau quand t'as une communauté, t'as créé un truc depuis des années et d'un coup t'as l'impression que t'as une armée derrière toi qui est prêt à tout dégommer pour t'aider. C'est incroyable. C'est franchement, on devrait tous faire ça avec nos réseaux sociaux. C'est un truc de fou et les gens ils attendent que ça d'aider. Donc tu leur dis de venir marcher avec toi sur l'autoroute aux États-Unis, ils sont là. Tu leur dis d'envoyer une lettre au gouverneur. T'as 2000 personnes qui envoient des lettres au gouverneur de Washington. Ce jour-là, j'aurais aimé avoir sa tête. Même personnellement, grâce à ce mouvement-là. Et ça m'ouvre des portes que j'aurais jamais imaginées. Je reviens en septembre, là, je suis allée tourner un documentaire en Colombie-Britannique où j'ai pas le droit encore de dire pourquoi, le qu'est-ce, le comment, mais voilà, j'aurais jamais cru un jour faire des documentaires, tu vois. Être en tout cas dans une équipe qui est en train de réaliser un documentaire, pour moi, c'est fou, alors que mon diplôme, je suis assistante vétérinaire, donc ça n'a rien à voir. Ensuite, là où j'ai le plus peur, C'est en Mongolie. Il y a une vidéo où j'en parle sur YouTube si les gens veulent aller voir. J'ai failli clairement crever en Mongolie, mourir de froid. J'étais bloquée sous la neige pendant plusieurs jours où je commençais à avoir des orgelets au bout des doigts, au bout des pieds. C'était vraiment pas drôle. J'ai vraiment cru que j'allais crever. Donc voilà, ça. Et je déteste le froid maintenant. Si tu veux là d'aller surfer dans l'océan avec le froid, mon corps me dit non, c'est fini. On ne peut plus aller au froid, ouais, c'est compliqué. Il faudrait que je fasse une séance d'hypnose pour ça, à mon avis. Une étape importante de ma vie, un voyage où c'est une étape importante de ma vie, je dirais que c'est le premier en Thaïlande. Quand j'avais 16 ans, on a essayé de m'enlever. Et de là, derrière ça, j'ai fait une très grosse dépression, suivie de crises d'angoisse pendant plusieurs années. Et mes crises d'angoisse, alors la dépression, ça allait mieux. Mais mes crises d'angoisse, elles m'ont suivie pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et je pensais que j'allais jamais être capable de voyager et de partir toute seule. Pour moi, c'était impensable parce que mes crises d'angoisse, ça me bouffait trop depuis que j'avais 16 ans. Et déjà, ne serait-ce que partir à 2 heures de chez moi, de mes 16 ans jusqu'à mes 23 ans, c'était impensable parce qu'il fallait, si j'avais chanté qu'une crise d'angoisse montait, il fallait vite que je me réfugie quelque part. Et là où j'avais besoin de me réfugier, c'était dans mon cocon et c'était chez moi. Donc, il fallait toujours que j'aie mes petits rituels, mes petits trucs. Et je suis partie en Thaïlande, c'est vraiment un enchaînement de merde, mais de vraiment où tu te dis ta vie t'écroule et c'est vraiment la grosse merde. Je m'étais fait larguer de mon mec avec qui ça faisait 4 ans que j'étais avec, le boulot que j'aimais trop. J'ai pris des énormes coups de pute avec les gens avec qui je travaillais où finalement j'ai pas eu mon CDI parce que enfin c'était vraiment genre les coups de pute horribles que t'as pas envie d'avoir dans ta vie. Je me fais mettre à la rue, plus de chez moi. Et j'ai un coup de fil d'un ami qui me dit « Écoute, franchement, moi, je viens de me faire larguer aussi. J'en ai marre, je me casse en Thaïlande. » Et je me souviens, je me dis « Mais franchement, là, j'ai rien à perdre. Enfin, il n'y a rien qui va. Je me voyais juste partir droit dans un mur. » C'est vraiment... C'était horrible. Et je lui ai dit « Bah, je te suis. » Et je suis partie avec lui. Je suis restée pendant un mois avec lui. Mais ensuite, on a arrêté de voyager ensemble. Moi, je devais rentrer chez moi. Finalement, j'ai décidé de rester toute seule en Thaïlande et j'étais pétrifiée de voyager toute seule. Je faisais encore des crises d'angoisse. Il y avait des moments où, quand on voyageait ensemble pendant un mois avec mon ami, il y avait des moments où j'étais obligée de rester enfermée dans l'hôtel, où il était obligé de rester avec moi parce que je faisais des grosses crises d'angoisse et j'étais complètement paniquée d'être à l'autre bout du monde. Ça va être l'enfer de voyager seule. Enfin, là, c'était vraiment mon plus gros courage à deux mains que j'ai pu avoir de me dire « Allez, tu le fais quand même ». Il y a eu une magie qui s'est opérée, quoi. C'était vraiment la Thaïlande pour ça. J'aimerais toujours ce pays. C'est vraiment, pour moi, c'est le pays qui m'a fait le plus gros câlin. Et ça a été ma guérison de toutes les rencontres que j'ai faites, toute seule, d'être sur la route toute seule. Chaque personne qui a été sur mon chemin m'a aidée, tu vois, genre, comme s'il me donnait un autre pansement et un autre pansement et un autre pansement. Et je suis restée un mois et demi toute seule. Et à la fin d'un mois et demi, j'ai jeté ma plaquette d'anxiolytique et c'était fini, tu vois, j'étais plus accro à ces cachets-là parce que tu étais quand même assez addict aux anxiolytiques, malheureusement. Et grâce à ce voyage-là que j'ai fait toute seule, quand je suis rentrée, je me suis dit, mais en fait, c'est cette vie-là que je veux avoir, tu vois. C'est être sur la route, rencontrer des gens tous les jours, que ces gens-là te donnent... En fait, moi, j'appelle ça des talismans un peu. Genre, comme si chaque personne que tu rencontres sur la vie te donne un talisman à la fin qui va te faire évoluer dans le jeu vidéo, tu vois. Genre, il t'en faut 400 avant d'être au niveau final et genre t'as réussi ton jeu vidéo et j'avais envie que ma vie ce soit ça, d'avoir plein de talismans de plein de gens que je vais rencontrer. Si je devais donner un message à la Morgane d'il y a 12 ans, je dirais bah accroche-toi parce que ça va être ouf et je dirais aussi qu'elle est sur le bon chemin, que suivre ses rêves c'est la plus belle chose qu'elle puisse faire dans sa vie. Parce que quand tu veux devenir soigneur orque, que tu veux traverser le monde toute seule en sac à dos, que tu veux sauver des chiens, des chats et être payé pour ça, ou que tu veux enseigner l'équitation, ou que tu veux devenir vidéaste alors que t'as jamais touché une caméra, quand t'as 12 ans, c'était vraiment des choses que je voulais faire depuis que j'étais toute petite et que j'avais 12 ans. Et à chaque fois que j'en parlais, tout le monde me disait que j'y arriverais jamais, que c'est impossible. Et c'est vrai, hein, t'entendrais une petite fille qui te dit ça à 12 ans. Moi, je la croirais, tu vois. Mais encore à l'heure d'aujourd'hui, quand t'écoutes les adultes, c'est comme on est coupé du merveilleux de la nature et on est coupé du merveilleux de ce qu'on est capable de faire quand on a des rêves et qu'on a envie de les réaliser. Et donc ouais, je dirais qu'elle est sur le bon chemin et que réaliser ses rêves, elle va y arriver et elle a bien raison de s'accrocher. Et pour les jeunes qui nous écoutent, je pense que je leur dirais la même chose en vrai. Je leur dirais de se protéger aussi, de regarder d'aller dans la nature et de voir les belles choses qu'il y a autour d'eux, parce que ils sont quand même beaucoup envahis de mauvaises nouvelles et de choses qui sont très anxiogènes qu'on n'avait pas nous à cet âge-là. C'est ultra anxiogène pour eux. Tu te dis des fois quand tu regardes les réseaux sociaux, si t'as 12 ans, tu te dis à quoi bon tout ce que je fais. Enfin, ça doit pas être simple. Donc je dirais déjà de se couper un peu, d'aller dans la nature, de voir aussi, de se connecter au merveilleux et de quand même se renseigner sur ce qui se passe, parce que malheureusement c'est dans le monde dans lequel on vit et ça va être le monde dans lequel ils vont vivre, et de suivre leur passion, de jamais abandonner, de toujours suivre leur passion et de protéger ce qu'ils aiment. Parce que ça fait peur, mais quand on protège ce qu'on aime, c'est le promis juré, vu que je suis dedans. C'est aussi une des plus belles expériences que tu puisses avoir dans ta vie. Même si elle n'est pas facile. Mais il n'y aura jamais rien d'aussi puissant que de faire ça. Plutôt agréable.
C'était Little Gypsy dans Les Aventuriers Engagés. Un podcast produit par la Water Family, association d'éducation à l'écologie depuis 2008. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et on se dit à la prochaine.